Jazz aux éclats sur RCN.
Alain Aubrège.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jazz aux éclats. Un jazz aux éclats un peu particulier aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de fêter avec mes invités que je vais vous présenter dans un instant. J'ai le plaisir de célébrer aujourd'hui même le 10e anniversaire de l'émission Jazz aux éclats. Quand on a commencé à l'époque, on ne savait pas que ça durerait si longtemps. Et maintenant, moi j'espère que ça durera encore un certain temps. Alors 10e anniversaire, on n'est pas très très loin du 11e, il était grand temps. Aujourd'hui c'est le 10e anniversaire. Et pour cela, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir autour de moi un quartet de jazz. Bonjour Vincent Pagliarin.
Bonjour Alain.
Vincent qui est violoniste. Et avec nous Olivier Mugot, guitariste. Bonjour.
Oui, bonjour.
Victor Aubert, contrebassiste.
Bonjour.
Bonjour. Et puis Raoul Hernandez.
Bonjour.
Percussionniste. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec moi également, il nous a rejoint Johan Turpin, organiste, bien connu des auditeurs de jazz. De l'RCN, puisqu'il anime l'émission
Les manettes à la baguette.
Les manettes à la baguette.
Bonjour.
Bonjour. Et tous ces messieurs nous feront l'immense plaisir de, à l'issue de cette émission, ça sera diffusé un peu plus tard sur RCN et sur la chaîne YouTube de RCN, de nous offrir un concert d'anniversaire. Merci beaucoup d'avance.
Ah, un plaisir.
Merci à vous. Alors Vincent Pagliarin, on va faire connaissance. Je sais que tu viens d'enregistrer il y a quelques instants une émission en compagnie de Dominique Breda, de mon ami Dominique Breda, d'une émission tempo classique, car tu te partages entre la musique classique et le jazz. Mm-hmm. Tu es musicien, violoniste, on l'a dit, mais compositeur, arrangeur, enseignant, etc. Sur la partie classique, ben je renvoie nos auditeurs à ce qui vient d'être dit chez Dominique Breda. Ça sera diffusé, je crois, le mardi 12 novembre. Vincent Pagliarin, donc tu diriges un quartet de jazz depuis longtemps. Il existe ce quartet ?
Il existe depuis une bonne année. Je ne le dirige pas. Nous sommes tous, chacun, les maîtres de du devenir de ce quartet, bien sûr. Nous, avec Olivier, moi-même, et Raoul, je pense, et Victor également, nous avons la capacité de créer de créer des compositions pour ce quartet. Et ça fait un an, en gros, qu'on a conçu ce quartet.
Et puis, tu es venu avec un CD
Du quartet?
Non, un CD de jazz.
Un CD d'un quintet, le quintet Inebia, oui. Que nous avons fondé avec Olivier. Et, cela fait maintenant 2-3 ans, je crois.
Oui.
Où il y a violon, guitare, voix féminine, basse et percussion.
Alors, pour écouter le quartet, eh bien, je vous donne rendez-vous pour ceux qui auront la chance d'y assister au concert qui va suivre cet enregistrement, et puis qui sera diffusé plus tard sur RCN. On va écouter un petit peu de Inebia, justement. Ça veut dire quoi, Inebia ?
Alors là, il faut demander à Olivier.
Olivier.
Qui a choisi ce nom.
Ça veut rien dire.
Bon, alors, comme ça, la réponse est rapide.
Voilà. Mais c'est agréable à l'oreille.
C'est agréable à l'oreille. Bon.
J'ai un slogan.
Oui.
Inebia, le groupe qui n'est bien.
Oui, bah oui, allez, allons-y.
J'ai pas trouvé pire.
Alors,
Inebia pire.
Je propose que pour rentrer justement dans ce truc qui ne veut rien dire, voilà. On écoute justement de Inebia, Inebia. Inebia.
Thank you.
Inébia, ça ne veut rien dire, mais ça en dit long. Qui est la chanteuse, Olivier?
Donc Marie Mif Sud, qui est une chanteuse qui a déjà fait un ou deux albums, je crois, deux. Qu'on avait rencontré à l'époque au Conservatoire d'Auxerre, puisque il se trouve qu'elle enseignait là-bas. Et on lui avait proposé le projet. Elle a donc enregistré l'album avec nous. On a tourné une petite année ensemble. Et puis, bon voilà, c'est ce que j'expliquais pour des raisons personnelles. Elle voulait surtout se reconcentrer sur un projet plus personnel au niveau musique. Donc maintenant, on a une autre chanteuse.
Une autre chanteuse, parce que cet ensemble tourne toujours.
Alors cet ensemble, excuse-moi Vincent, donc cet ensemble tourne toujours effectivement. On a eu le plaisir de jouer au mois de mai à Jazz Sous les Pommiers. D'ailleurs, dans le cadre d'un programme d'échange avec le Centre Régional du Jazz en Bourgogne. Et puis, on est à l'écriture d'un nouvel album avec ce groupe-là. Et c'est un groupe qu'on a visualisé avec Vincent un peu comme un collectif avec tout un tas d'invités. Donc, le prochain album, il y aura peut-être plus de voix, mais il y aura peut-être de l'harmonica, avec notamment Sébastien Charlier, oui. Voilà, qui est un très bon copain. Et puis peut-être d'autres invités aussi. Voilà. C'est en processus d'écriture.
Oui. Alors, bon, je me tourne vers le violoniste, Vincent. Alors, on va entendre, j'ai choisi un peu de musique de violon pour vous faire entendre. Je dois dire que je ne t'ai pas communiqué la liste des morceaux entendre. Je ne les annoncerai pas non plus. On en parlera après les avoir entendus. D'accord. Et j'aimerais bien vous voir réagir tous autour de cette table, pas uniquement le violoniste. J'ai tenu compte un peu de ce que je savais de ton histoire. Je propose qu'on commence par ça. Night in Tunisia, bien sûr. Alors, Vincent?
Ponty.
Ponty, bien évidemment. Sûr. Jean-Luc Ponty. En 1964, il était tout jeune, c'est son premier enregistrement. Ouais, hein. Ouais. Oui, il était en compagnie de Eddie Lewis au piano. On et parlait ouais, d'Eddie Lewis tout à l'heure, organiste, oui. Mais il a enregistré parfois au piano aussi.
Bah, il a commencé
comme ça, ouais. avec bah, justement Ponty, mais aussi avec Michel Portal. Eddie Lewis. Et puis il chantait aussi dans le groupe Les Double Six.
Absolument.
Il avait énormément de talent. Et puis, quelqu'un qu'on entendra peut-être encore tout à l'heure, bah, c'était Daniel Humer. Hein. Bon.
Ah bah, Ponty, c'est le souvenir le plus marquant dans ma vie de musicien, puisque je suis allé l'écouter, j'avais 13 ans, à Strasbourg. Il sortait Cosmic Messenger à l'époque, et c'est là où j'ai su que je voulais choisir la même... en tout cas, j'allais vers le jazz dès ce moment-là, bien qu'étant sous la coupole classique, si j'ose dire. Et en même temps, notre quintette Inebia, je me suis permis, sans le connaître, de lui envoyer le lien Drive Google de la musique. Je n'attendais rien, je ne pensais pas qu'un mois se passe sans aucune réponse, donc je désespère, bien sûr. Enfin, je me dis, j'en demande beaucoup. Sauf qu'un mois après, je reçois un mail de Jean-Luc Ponty lui-même, s'excusant de ne pas avoir répondu plus vite, puisqu'il était beaucoup demandé, et me disant qu'il a écouté très attentivement, et je n'ai pas honte de le dire,
bah non, surtout pas.
Me disant que j'étais un bon violoniste de jazz et qu'il aimait beaucoup le quintet. Dans un mouvement d'enthousiasme et d'émerveillement total, je lui renvoie un mail en disant que c'était exceptionnel et que pour moi l'honneur serait de pouvoir lui parler. Il est aux États-Unis, hein, il est à côté de Los Angeles, d'avoir une conversation avec lui. Bon, au bout de plus de 15 jours, pas de réponse, là, j'en demande vraiment trop. Sauf que un lundi soir, il m'envoie un mail en me disant « Quelles sont vos disponibilités cette semaine? J'aimerais vous joindre. » Le mardi, on a parlé plus d'une heure au téléphone et ça a été un moment exceptionnel parce que j'ai partagé en tout cas voilà, tout l'apport qu'il a eu pour moi en tant que violoniste de jazz, parce que c'est quand même, à mon sens, le plus grand violoniste de jazz qui est, et notamment avec Daniel Humer et Eddie Lewis. Nous avons partagé nos impressions sur le Conservatoire de Paris, évidemment, et puis ceci et cela, et je lui dois tout, en quelque sorte.
Voilà.
Bon, j'ai des entretiens très réguliers maintenant par mail avec lui.
Jean-Luc Ponty, c'était un bon choix, alors. Hein.
Oh mon Dieu.
Oui. Ah bon, on va choisir un autre violoniste qui te rappellera là aussi des souvenirs. Allez. Alors Vincent.
Et évidemment, Gullstring, l'ensemble Gullstring. Et j'ai deux choses à dire sur ce morceau en particulier. C'est ce violoniste Pierre Blanchard, qui est quand même un des grands violonistes. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'étais encore au Conservatoire de Paris d'ailleurs, et il revenait des États-Unis. Et il avait commande pour écrire pour un quatuor à cordes, basse, batterie, piano et saxophone. Et j'ai participé évidemment à cet ensemble. Il m'a appelé avec Hervé Cavelier d'ailleurs, qui est un autre violoniste issu du Conservatoire de Nancy. Ceccarelli à la batterie, Cesarius Alvim à la basse, Alain Jean-Marie au piano et Eli Konitz au saxophone.
Oui.
Bon, là, évidemment, bon. Ça ne s'entend pas, mais en tout cas, c'était le... Et nous avons aussi une amitié de très très longue date, et c'est un musicien et un violoniste que j'adore et que je... Et donc, nous avons travaillé ensemble. Nous avons enseigné le violon de jazz pendant 20 ans à Aubervilliers. Enfin, j'ai enseigné avec lui pendant 20 ans le violon au conservatoire d'Aubervilliers. Et nous avons monté ce groupe qui s'appelait Gullstring. Et ce morceau a une particularité, c'est que je l'ai appris à la manière qui, pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que je n'avais aucune partition. On a passé le temps l'un en face de l'autre, et toutes les parties de violon, je les ai apprises. Je les ai mémorisés. Je n'avais aucune partition. Le moment où on l'a enregistré, ben, c'est une prise. Là, c'est une prise sans aucune retouche. Et le pire, c'est pas le pire, ce qui est extraordinaire, c'est que ce CD, on l'a enregistré la semaine de la naissance de mon fils Jérémy, qui est violoniste également et qui a maintenant 32 ans.
Ben oui, c'était en 92.
C'était en 92. Oui.
Alors, j'ai vu pendant qu'on écoutait ça que ça rappelait un souvenir aussi à notre ami Yoann Turpin.
Oui, mais c'est un album que j'apprécie beaucoup, mais surtout parce que je l'ai beaucoup entendu, puisqu'il était définitivement bloqué dans le lecteur d'une Alfa Romeo. Donc, du coup, je le connais aussi par cœur, mais pas pour les mêmes raisons.
Raoul. Ça te parle, ce genre de...
Je ne connaissais pas.
Tu connaissais pas, mais...
Je ne connaissais pas, mais bon, c'est magnifique.
C'est beau, hein, c'est bien. C'est
très, très bien.
Jazz aux éclats sur RCN.
Alors, en aparté tout à l'heure, Olivier, on disait que finalement, bah, ça faisait du bien d'écouter des violonistes de jazz, parce que... Bon, il y en a même un certain nombre, mais enfin, c'est pas l'instrument le plus courant, hein.
Ben non, c'est non. Ça.
Alors, ça m'a donné une idée, c'est de vous faire entendre... voilà, je vous dis pas ce que c'est, vous allez voir. Thank you. Alors, je pensais que personne ne trouverait qui c'était, mais Vincent a trouvé.
Ah ben oui, Leroy Jenkins.
Leroy Jenkins, en 1977. Alors, un violoniste qu'on peut cataloguer free jazz.
Oui, enfin qui n'était pas de, au départ vraiment violoniste, hein, mais oui, disons que bon, free jazz, non, mais disons c'était pas sa spécialité en gros. Quoi,
le reste de l'album est plutôt...
Oui, ceci dit, c'est vrai. Oui.
j'ai choisi quelque chose, ça s'appelle blues, et on a bien reconnu. Le pianiste, c'est un grand du piano de cette époque-là, lui aussi... dans la mouvance free jazz ou les musiciens de Chicago, c'est Moal Richard Abrams, un grand pianiste. Leroy Jenkins. Alors, je me disais, qui est-ce que je vais bien pouvoir trouver à lui faire écouter pour, non pas le mettre en difficulté, mais pour sortir un petit peu des violonistes connus. Alors je me suis dit, je vais lui faire écouter Ornette Coleman au violon, il en a joué. Bon, ça écorche un peu les oreilles. Moi j'aime bien, mais bon. Plus classique, on va écouter Renans, le trompettiste de Kellington, qui a donné, à mon avis, pas assez de solos de violon dans l'orchestre. Il y en a un très beau sur un morceau qui s'appelle Back If. Ça sera pour une autre fois. Leroy Jenkins. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses ?
Oh ben moi, je connais... mais ce morceau-là, je ne le connaissais pas vraiment, même si je l'ai en mémoire. Mais je me souviens de Leroy Jenkins dans certains trucs de traditionnels, en fait, qui jouait super bien. Quoi.
Oui.
Après, ben voilà, quoi, c'était un violoniste assez important, même si c'était, encore une fois, pas sa spécialité. Quoi, mais voilà, c'est en tout cas un musicien que j'ai écouté, et beaucoup.
Raoul ?
Également. Free jazz.
Bon, ça va, on peut ?
Si. C'est pour moi, c'est tolérable.
Mais c'est tolérable. Bon, alors, Raoul Hernandez, on ne l'a pas précisé, il est percussionniste cubain. Hein.
Ah oui ?
Oui. Mais bon, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Allez, on continue dans nos aventures violonistiques. Eh bien, avec ça.
It don't mean I'm zing with if it ain't got that swing.
It don't mean I'm zing.
I'm zing.
Alors, qui a reconnu qui ?
Oh bah, Grappelli et Jean-Luc Ponty.
Oui.
Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty.
Mais ils n'étaient pas tout seuls.
Non, c'est sûr. Mais là, j'avoue que les
quatre violonistes d'un coup.
Ah oui, pardon.
Quatre violonistes d'un coup.
Il y avait. Ouais.
Johan ?
Je n'ai pas d'idée. On a dit les plus grands.
Bon, Vincent a trouvé. Ben, les deux Français de l'équipe. On a entendu successivement, ça a été enregistré en Allemagne en 1966, avec Kenny Drew au piano, Nils Henning, Ørsted Petersen à la basse, Alex Riel à la batterie. Et on a entendu successivement, sur ce thème de Duke Ellington, on a entendu successivement Stéphane Grappelli, puis le Suédois Sven Asmussen, qui était un violoniste très connu à cette époque-là. On a entendu ensuite Jean-Luc Ponty, qui était le jeune de l'équipe. Et puis après Jean-Luc Ponty, il y avait le vétéran, c'était Stuff Smith, musicien américain qui jouait d'une autre façon.
Extraordinaire.
Mais tout à fait... il jouait le blues à merveille.
Oh là.
Oui.
Hein? Et Dieu sait ce qu'il a... Bah, avec Duke Ellington aussi, mais c'était il avait un phrasé, une intériorisation de la musique qui était exceptionnelle.
Oui. Enfin,
vraiment, pour moi, c'est l'un des très grands violonistes.
Stuff Smith. Allez, on continue. On continue avec du violon encore. Aujourd'hui, c'est du violon. Alors, Vincent.
Alors, c'était Joe Venuti.
Joe Venuti, Eddie Lang à la guitare, en duo, en 1926. Là, on est remonté très loin.
Grand violoniste aussi.
Oui, grand très violoniste. Bon.
Oh mon Dieu.
C'est quand même assez. Bien construit.
Puis une maîtrise de l'instrument, assez incroyable.
Oui, ces enregistrements, ce duo avec Eddie Lang à la guitare, c'est quelque chose.
Très inventif.
Ça vous parle, messieurs, hein?
Je découvre énormément.
Tu découvres, mais il faudra venir plus souvent.
Déjà, je suis heureux des croiser les chemins de Vincent, l'humaniste, déjà qu'il est très bon. Donc là, déjà par cette couloir et votre émission, je découvre.
Voilà, c'est formidable.
Jazz aux éclats sur RCN.
Eh bien, dans la bonne humeur, on continue. Alors là, tu vas reconnaître tout de suite et je sais que ça va te faire plaisir. Thank you. Oléo de Sonny Rollins, Vincent, oui. J'imagine évidemment
Ça, c'est la, pour moi, c'est la Bible du violoniste de jazz, hein, oui. C'est le trio HLP. Hein.
HLP, oui.
Daniel Humer, Eddie Lewis et Jean-Luc Ponty, et ça, c'est exceptionnel. Quoi.
Et cette fois-ci avec Eddie Lewis, Johan, oui. À l'orgue.
Oui, et puis là, on peut entendre dans cet extrait-là qu'Eddie Lewis, il affectait beaucoup justement de ne pas faire tourner la Leslie. Oui, il avait souvent un son droit, et il l'utilise très peu. Et on racontait hors antenne que de toute manière, vu le tempo, là, je ne sais pas s'il y a le temps de la déclencher.
Puis je ne sais pas si on peut imaginer, c'est dans les années 60 ça, hein, quand même, et si on peut imaginer la révolution au niveau du violon qu'a apporté Ponty, parce que c'était le Coltrane de violon, si j'ose dire, quoi.
Oui. Et c'est dans la technique. Je me souviens très bien que c'est ce qui s'était dit, oui. Dès le départ, après, en particulier après son passage, il était tout jeune, il avait je crois 18 ans, quelque chose comme ça, après son passage au festival d'Antibes Jean Lépin, et les revues spécialisées avaient dit c'est le Coltrane du jazz.
Il y a une intelligence, j'ai envie de le, quand j'entends cela, c'est un texte, enfin j'ai écrit un texte, Le son porteur de sens, et ça me donne envie de lire, pas long. Hein.
Oui, les non, sons, non, mais je me proposais de te le demander, alors ça tombe bien.
C'est très personnel, mais j'écris les sons, je les perçois comme un résumé de l'univers, de l'harmonie cosmique. Écouter un son, c'est être confronté à l'univers, la résonance s'effectuant de l'extérieur à l'intérieur, chargée des informations utiles à la compréhension du monde. L'objet qui résonne restitue, témoigne de sa présence, de son origine, sa texture, sa forme, sa force. Le son transporte avec lui le sens de son existence et donc l'essence de son origine. Le son est un messager des sens et produire un son est l'unique manière de nous mettre en relation avec l'espace sacré de la vie par la voix ou à l'aide d'un instrument. Et quand j'écoute Ponty et bien d'autres musiciens qui ont ce rapport et qui ont effectué ce travail, eh bien nous sommes confrontés à ce temple exceptionnel qui est celui de la musique et donc du sens donné au son.
Oui.
Ça me rappelle une interview qu'avait fait juste avant de mourir. C'était la dernière interview radio d'Eddie Lewis. Et la dame qui l'interviewe, je ne sais plus, c'était une radio musicale française. Elle lui dit, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire. Et il lui dit, non, mais si je peux prendre 20 secondes, je vous mets derrière l'instrument. L'orgue, c'est tout simple, c'est des tirettes. Voilà, vous faites votre son. Tout le monde peut apprendre à en jouer. Et la dame qui interviewe dit, oui, mais ce que vous faites avec le son, bien sûr qu'on aurait ces instruments-là, mais ce que vous arrivez à faire avec le son et la musique que vous faites, c'est là où ça se passe. Et dit Louis, qui était très modeste, dit, probablement, effectivement.
Exactement. Voilà,
même si on m'apprend.
Nous, les artistes expriment l'incognoscible, c'est-à-dire ce qui n'a pas le sens, c'est-à-dire qui ne s'exprime pas par les mots. Même, je dirais, des sentiments qui ne peuvent même pas s'exprimer par le biais de l'intelligence ou de la compréhension. Et l'art et la musique permet d'exprimer l'incognoscible. Voilà. Après, à chacun de donner le sens.
Oui. Alors, voilà des paroles fortes pour le 10e anniversaire de Joe Zosek. Là, c'est formidable. Merci. Eh bien, allez, on continue.
Thank you.
Eh bien, on ne pouvait pas terminer cette émission sans revenir à la musique de Inébia, Vincent Pagliarin, ça s'appelle Didgileria.
Didgileria, oui.
Ça veut rien dire comme tout à l'heure
Inébia. Si, ça veut dire quelque chose, c'est un morceau que j'ai composé. Alors au début, c'était, là-bas, c'était un peu une bouleria, enfin, en tout cas, ce que j'en percevais. Et la maman d'Olivier, qui nous accueille à chaque fois chez elle d'une manière très généreuse et extraordinaire quand on répète, et on l'appelle Gigi. Donc c'est devenu la Didgileria. Et le c'est très bien, c'est la voix de la maman de.
Petit clin d'œil, c'est que c'est sa voix. On l'a enregistré. Il y a une longue histoire autour de ça, mais parce qu'elle avait crié un c'est très bien pendant une répétition où on enregistrait parce qu'on voulait écouter le travail.
C'est une très très belle conclusion pour cette heure que nous venons de passer ensemble.
Comme disait Horace, quand on ne trouve personne pour le faire, il faut bien s'appeler soi-même.
Alors la bouleria, Raoul, ça te va? Parfait, très bien.
Ça m'a rappelé.
Il est temps de se quitter, de quitter nos auditeurs. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour le concert qui sera diffusé ultérieurement. Mmh. Et d'avance, je vous en remercie. Merci à Joris, à la technique. Merci. Et puis, eh bien, Olivier Mugot, Victor Robert, Raoul Hernandez, Johan Turpin, merci de m'avoir accompagné pendant de cette rien. Heure. Cette
merci,
heure
merci
qui
beaucoup.
Pour moi est un grand moment quand même, l'anniversaire. Ouais. Ça fait quelque chose un petit peu.
Très heureux.
Et puis, on avait même la présence de Christophe. Au revoir, Christophe. Au revoir à tous.
Au revoir
à tous.
Beaucoup.
Et à bientôt.